va déguster sur France Inter.
Vendredi, notre ami Antoine Gerbel m'a envoyé un mail avec en énorme police. Attention, recette géniale. Je veux absolument en parler. Je crois d'ailleurs que, enfin, j'ai même vu les photos qui attestaient de votre expérience dans la semaine. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est une recette familiale. Alors, restez, chers amis, restez au micro parce qu'elle va peut-être effrayer quelques-uns. C'est une recette familiale qui m'a été soufflée par un ami quibronais de cœur. Je ne sais pas si elle est originaire de Quiberon, mais je crois quand même qu'elle est un petit peu liée à ce territoire du sud de la Bretagne. Ça s'appelle recette homard au beurre et c'est tout simple. Vous prenez 1 kg de homard, ou plus si vous avez la chance d'avoir plus de homard, et exactement 1 kg de beurre.
Ah, mais vous plaisantez.
Attention, 2/3 de beurre de micelle et 1/3 de beurre doux.
1 kg de homard.
Vous me voyez arriver.
Moi, c'est mémotechnique.
Vous me voyez arriver. Vous faites fondre votre beurre, que du beurre.
1 kg donc.
Il mousse légèrement. Vous tronçonnez très rapidement, comme vous l'expliquez précédemment, votre homard. Vous le plongez vivant dans ce
vivant tronçonné.
Vivant ou on
l'étourdit
avant, on va dire.
Voilà,
parce que là,
on va dire vivant en petits bouts, dans ce beurre moussant, et vous le laissez cuire. Alors là, vous dites tout de suite, mais oh, ça doit être gras, c'est terrible. Eh bien non, pourquoi? Eh bien parce que un bon homard, encore une fois, frais, où la chair ne s'est pas contractée
dans
toute la carapace, occupe toute la carapace. Donc le beurre rentre très peu entre la chair et la carapace. Elle cuit le beurre extérieur et le beurre ne rentre pas dans la chair. Donc ce qu'on n'aime pas dans une cuisson au beurre, c'est quand le beurre est vrai, éponge un peu, quand la chair éponge ce beurre. Non, elle reste à l'extérieur.
Il y a une dimension un peu confite quand même.
Vous égouttez votre homard qui est bien rouge comme on l'a raconté précédemment. Et surtout, vous avez du beurre au homard. Parce que le homard est extraordinaire, mais vous allez prendre à petite louche ce beurre, vous allez le mettre dans des petits ramequins et que vous allez servir à côté de vos pinces ou vos tronçons de homard, à côté du riz ou des pâtes que vous avez fait. Et vous allez mettre par petites touches ce beurre de homard et c'est un concentré extraordinaire de homard. Voilà pourquoi j'aime cette recette.
Avec du riz rond.
Des pommes de terre en vapeur, là.
Il faut quand même prendre un féculent ou il faut quelque chose qui absorbe un tout petit peu ce goût. Et puis, surtout parce qu'il y a une quantité de beurre un peu importante, vous pouvez réserver ce beurre et le congeler. Et de temps en temps, vous le sortez et vous mettez une petite cuillère de ce beurre homard sur les pâtes des enfants, par exemple. Hein, ça change le
quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous aimeriez goûter?
Je pense que c'est pas très light, mais je pense que c'est une bonne idée.
Pas très quoi?
Non. La petite chose qu'on peut dire, c'est que dont on parlera un peu plus tard aussi à propos du tourteau, c'est-à-dire que les crustacés supportent super bien le gras et se mêlent très bien au gras, et le gras enrobe le crustacé et se marie, et que ce soit du gras animal ou de l'amande, comme on verra plus tard, le gras se marie très bien avec le homard.
Et le gras, c'est la vie. Alors bien évidemment, c'est un thème merveilleux pour les amoureux de vin. Vous savez que là, on a la chance d'avoir la palette des vins blancs, on va dire français, je dirais, et on va dire occidentaux. Pourquoi? Parce qu'on a des terroirs pour faire de grands vins blancs qui sont d'anciennes mers. Les cépages blancs poussent sur le calcaire, ce calcaire qui peut être soit champenois, soit dans la Loire, soit en Bourgogne, soit dans le Jura. Vous en avez à peu près partout, et c'est là où on fait de très grands blancs. Donc je vous citerai pas la liste. Plongez-vous dans les bouquins qui recensent un peu tous les accords possibles. Voilà. J'avais envie d'ouvrir déjà une toute petite parenthèse pour rappeler qu'on a une semaine de dingue en viticulture. Vous avez tous entendu parler de ce gel terrible, ce gel noir, c'est-à-dire les températures sont descendues en dessous de 5 degrés. À une période, on va dire que dans l'histoire de la viticulture, pas dramatique. Hein, début avril, il arrive souvent qu'on gèle. Sauf que je vous rappelle qu'il y a 3 à 4 semaines d'avance de la viticulture depuis 40 ans. La vigne n'arrête pas à cause du réchauffement climatique d'avancer. Or, les gelées, elles restent toujours à peu près à la même époque. Donc, on a aujourd'hui des petits bébés bourgeons qui sont aujourd'hui brûlés. Donc, voilà, il faut penser à eux. Il y a, suivant des régions, on a perdu peut-être 70 à 80%. Ça rappelle le dernier très grand gel historique qui était 91. Voilà. Et surtout, ça a frappé le pourtour de la Méditerranée, ce qui n'existait avant, malheureusement, jamais.
Ça concerne la viticulture, mais également l'arboriculture.
Bien évidemment. Alors, quand j'ai pensé à cette chronique, le gel n'était pas encore dans ma tête, mais j'en ai eu un écho, puisque j'ai appelé une fille assez extraordinaire dont je vais vous parler. Et ça m'a fait penser qu'il y a des pousses aussi chez les humains dans la viticulture, des gens qui commencent, qui débutent, qui plantent des vignes, parce que ça c'est relativement... Avant, on achetait des vignes, ou des vignes plantées, et puis des vieilles vignes. Non, on se rend compte aujourd'hui que planter, c'est mieux parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs ces 50 dernières années en plantant la vigne. Alors, un jeune vigneron qui s'installe, ben, il plante des vignes. Et ben, la vigne qui a été plantée cette année, elle est brûlée complètement puisque c'était les plus fragiles. Donc, il y a quelques mois, je pensais à vous parler de Katrina Sadé. Alors, Katrina Sadé, c'est une vigneronne de Beaune. Je l'ai rencontrée autour d'une table. Alors, une table un peu spéciale, ça s'appelle une table de tri. C'est la table de tri qu'il y a dans le chai au moment des vendanges où on trie le mauvais du bon raisin. Et j'étais en Bourgogne, au château de Bligny, on triait du pinot noir. Et on parle, et je ne connaissais pas cette personne, mais qui parle avec un joli accent allemand, et on parle cuisine. Et je lui demande sa connaissance de cuisine. Ben, elle m'explique qu'elle a fait une formation de cuisine très poussée en Allemagne. Après, vous savez, les formations professionnelles en Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Après le bac, on peut faire un très très bon niveau. Elle est embauchée dans un étoilé Michelin. Une étoile, deux étoiles. On est à Sylt. C'est une île en mer du Nord. C'est un peu le Saint-Tropez de l'Allemagne. Elle s'y ennuie un peu vite. Elle fait 2 ans. Donc c'est classe, vraiment, chef de parti. Elle a envie de changer un peu d'esprit. Alors elle reprend ses études. Elle va faire une licence de sciences de l'alimentation. Et puis, elle s'y ennuie encore beaucoup. Elle dit, elle va s'aérer en allant faire les vendanges. Elle commence à faire les vendanges en Allemagne. Puis, bien évidemment, la France l'intéresse beaucoup. Et elle rencontre en Bourgogne vraiment sa passion, le chardonnay et le pinot noir. Elle est embauchée comme ouvrière agricole, chef de culture, attention, hein, à la Romée-Conti, au domaine du Marquis d'Angerville, chez Cécile Tremblay. Là, je suis en train de vous citer 3 parmi des méga stars de la Bourgogne. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas prendre la place de ces gens-là, c'est simplement travailler avec la vigne. Elle se sent bien dans la vigne. Mais elle est un peu confrontée à l'ego de tous ces vignerons qui ont beaucoup de mal à partager un petit peu leur savoir-faire. C'est un peu gênant d'ailleurs pour ces vignobles-là parce qu'ils perdent beaucoup de talent. Elle avait envie de continuer à travailler auprès de ces gens-là, mais elle est forcée de, on va dire, partir sur son propre chemin. Alors, elle continue à se former. Elle fait un master Supagro à Montpellier. Elle jumelle ça avec des études en Allemagne et, par autre parenthèse, en Allemagne, dans les universités d'œnologie, on apprend la biodynamie et on ne diabolise pas la biodynamie, c'est pour ça. Et elle revient. Elle fait un stage en Afrique du Sud. Elle prend son vignoble. Elle rencontre son mari Dijonais, qui l'épaule dans son lancement. Et pendant 8 ans, elle construit son domaine. Je vous ai amené son premier vin. Son premier vin, c'est un simple aligoté.
Trop, faites passer la bouteille, Charles.
Oui, voilà. C'est un simple, un simple aligoté.
C'est salin, c'est salivant.
C'est délicieux. C'est son premier millésime. C'est 2019. Elle fait aussi un peu des rouges côté Bourgogne. Elle fait aussi des beaunes. C'est travailler sainement. Jusqu'à la mise en bouteille, il n'y a pas de soufre. C'est très drôle parce que l'aligoté, vous savez, c'est le vilain petit canard souvent de la Bourgogne. On parle toujours du chardonnay. Et c'est un cépage qui aujourd'hui prend beaucoup, beaucoup de place parce que on découvre la Bourgogne aujourd'hui par l'aligoté. Et ça n'a plus rien à voir avec l'aligoté qu'on mettait dans les bouillons de cuisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà. quand mon nez au-dessus de ce verre, ben voilà. La mer est là, j'ai des très très légers amers qu'on a dans certains crustacés.
Un peu métallique.
Et on a une dimension un peu extraordinaire. Alors, ce domaine s'appelle Les Aurées. Voilà, c'est sa première cuvée, c'est tout nouveau sur le marché. Vous trouverez sur le site de l'émission les coordonnées de son distributeur. C'est des petites productions. Souvenez-vous qu'il y a eu une très bonne émission la semaine dernière sur le prix du vin. Elle était très importante, cette émission, parce qu'elle vous expliquera comment, pourquoi une femme qui travaille seule avec autant de passion est forcée de vendre son vin un petit peu cher. Vous le trouverez chez les cavistes à moins de 30 €. Mais je vous assure que l'expérience en vaut la chandelle.
Le destin de Katrina Sadé, avec ce double handicap d'être une femme et une Allemande dans un milieu assez conservateur, on va dire, la Bourgogne, ben chapeau, hein, parce qu'alors le résultat dans l'assiette, c'est vivant, vibrant et extraordinaire.
L'alliance Omar Agrume avec
Laurent Delmas,
c'est sublime. On est bien là.
Ah ouais.